Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité de la mi-journée, selon un nouveau bilan, les séismes en Turquie et en Syrie ont fait plus de 5000 morts. Pas de victimes du côté de la communauté burkinabé vivant en Turquie, assure Mamoudou Zonon, doctorant en biotechnologie appliquée à l'université d'Antalya. Il est notre invité du jour. Au Burkina Faso, 22 civils et 3 policiers ont été tués dans une attaque à Bani dans le Sahel samedi dernier, annoncé hier le gouverneur de la région. Et puis le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé dans la nuit d'hier à aujourd'hui au Mali. Une visite qui concrétise le rapprochement entre Bamako et Moscou. Le bilan des séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie ne cesse d'augmenter. Au moins 3419 personnes ont été tuées dans le sud-est de la Turquie et 1602 dans le nord de la Syrie, ce qui porte le bilan total à au moins 5021 morts selon des sources officielles et médicales. Les secouristes tentent encore d'extraire des rescapés des décombres. La pluie, la neige et le froid rendent les recherches de survivants dans les immeubles effondrés plus difficiles. Selon le président turc qui a décrété lundi un deuil national de 7 jours en Turquie, 45 pays ont proposé leur aide. En revanche, en Syrie, l'appel lancé par les autorités de Damas a été surtout entendu par son allié russe, promettant des équipes de secours dans les prochaines heures. L'ONU a également réagi, mais en insistant que l'aide fournie irait à tous les Syriens sur tout le territoire dont une partie n'est pas sous le contrôle du gouvernement. Revenons en Turquie où plus de 600 Burkinabés composés essentiellement d'étudiants, de commerçants et travailleurs vivent dans ce pays. Il n'y a pas de victimes parmi nos compatriotes. L'ensemble de la communauté se porte bien selon Mamoudou Zonon, doctorant en biotechnologie appliquée à l'université d'Antalya. Il est notre invité du jour. Interview à suivre en fin de journal. Insécurité au Burkina Faso, 25 personnes dont 22 civils et 3 policiers ont été tués dans une attaque à Bani dans le Sahel samedi dernier, a annoncé hier lundi le gouverneur de la région. Le communiqué du gouverneur indique également que des blessés et des dégâts matériels ont été enregistrés. Allégations de tuerie de pèlerins nigérians par l'armée burkinabé. Des enquêtes ont été ouvertes, a annoncé lundi la chef de la diplomatie burkinabé suite à un échange avec l'ambassadrice du Nigeria. Selon le président nigérian Muhammadu Buhari, les pèlerins auraient été tués lorsque leur bus qui roulait en direction de Kaolack au Sénégal a été la cible d'une attaque armée au Burkina Faso. Acculés au front, les groupes armés terroristes opèrent par la manipulation. Ils s'en prennent aux populations civiles en se faisant passer pour des forces de défense et de sécurité burkinabè, selon la ministre des Affaires étrangères du Burkina, Olivia Rwamba, pour qui il est important d'éviter des tensions inutiles entre deux pays frères et amis. Et il est important pour le Burkina d'entretenir d'excellentes relations de coopération avec les différents pays de la sous-région. C'est sans doute pour cette raison qu'Olivia Rwamba a reçu ce mardi matin en audience les ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Diplomatie toujours, cette fois-ci au Mali voisin. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, est arrivé dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Bamako, où il a été accueilli par son homologue malien Abdoulaye Diop à l'aéroport international Modibo Keïta. Annoncé dimanche dernier par le gouvernement malien, cette visite de haut niveau s'inscrit en droite ligne du choix politique opéré par le gouvernement de la transition d'élargir et de diversifier les partenariats stratégiques conformément aux principes clés guidant désormais l'action publique au Mali. Cette visite d'amitié et de travail de Sergueï Lavrov à la tête d'une forte délégation va se dérouler en 48 heures selon le gouvernement malien. Les habitants du secteur 41 situé dans l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou sont mécontents. Ces résidents d'une zone non lotie protestent contre une expropriation de leurs terres. Cet espace aurait été vendu à Inoussa Kanazoué, homme d'affaires burkinabé, qui a débuté la mise en valeur. Explication avec Abdoulaziz Zoulabou.
Une clôture en construction avec des travaux de forage dans ce qui était autrefois le cimetière de Zangongo, quelques encablures des forces de l'ordre, quelquefois des discussions avec les habitants de la zone mobilisés contre cette opération. En effet, Zangongo est une zone non lotie qui abrite plus de 500 âmes selon les habitants. Elle aurait été attribuée en 2014 à des opérateurs économiques par le ministère du Commerce dans la dynamique de l'extension de la zone industrielle. Ces habitants mobilisés ce matin dénoncent une démarche qui n'aurait pas tenu compte de leur situation. Ousmane Ouedraogo est un habitant de la zone.
Ils ont dit que quand les maires seront rétablis, ils vont venir voir le maire de Nongormasum pour nous déplacer, pour nous attribuer des lotissements. Et maintenant, récupérer nos zones-là pour attribuer. Ce n'est pas une seule Kanazoué celui qui est attributaire ici. Il y en a d'autres. Voilà, c'est ce qui a été dit. Mais depuis ce temps, nous, on n'a rien vu. Les maires sont venus, il n'y a rien eu. Et aujourd'hui, maintenant, on voit que il y a des machines qui sont là, une foreuse qui est là pour faire du forage. Et donc, on n'est pas d'accord par rapport à cette situation.
Plusieurs années d'histoire difficiles à abandonner. Le ciel semble tomber sur la tête de certains. Issouf Ouedraogo est aussi un habitant.
Si je vous dis comment moi j'avais investi ici, là, non, je ne peux pas dire comme ça. Ça, je ne mens pas. Même si je vais mourir, ça, je ne mens pas. Je vais aller où? Où? Je n'ai pas de parcelle, je n'ai pas non l'outil. Ce n'est pas le seul village que moi j'ai là. J'ai investi ici. Moi, je suis là. Moi, j'ai plus de 50 ans que je vis ici. C'est quoi? Je vais aller où?
Nulle part où aller, les termes qui sont sur la plupart des lèvres. Ces derniers disent ne pas être contre la cession de leurs terres, mais que l'autorité propose une mesure qui va leur permettre de garder leur dignité.
Pour garder leur dignité et avoir de quoi subvenir à leurs besoins élémentaires, les commerçants du marché de Sankariar plaident pour la réouverture des boutiques qui n'ont pas été touchées par l'incendie du 29 janvier dernier. Doléances faites à la délégation conduite par le président de l'Assemblée consulaire régionale du centre, Amidou Ouedraogo, dit Hamid Karo. C'était lors d'une visite lundi qui a réuni des responsables syndicaux et autres membres de structures de commerce. Moumouni Tamboura.
Janvier dernier, un incendie avait ravagé environ 70% des commerces. Plusieurs d'entre eux ont lancé des cris de cœur pour limiter les conséquences de ce drame. Un soutien moral. Tel a été l'objectif principal du président de l'Assemblée consulaire régionale du centre, Amidou Ouedraogo, dit Hamid Karo. Après quelques heures de constat, il s'adresse aux commerçants qui ont presque tout perdu.
La délégation consulaire de la région du centre, la chambre de commerce et les associations des commerçants et moi, on est venus pour compatir à la douleur de ces différents commerçants du marché de Sankariar. Au moment des faits, nous n'étions pas sur place et au regard de la situation sécuritaire qui traverse le pays et cette catastrophe qui vient s'ajouter, ce n'est pas simple pour ces commerçants.
Les dégâts provoqués par le passage de cette flamme pourraient se chiffrer à des centaines de millions, inquiète bon nombre de commerçants. Ces détaillants souhaitent une relance de leur activité le plus tôt possible. Mouktara Ulali est la représentante des femmes de Sankariaré.
On les souhaite pour qu'ils nous aident pour nos marchés, pour qu'on ne ferme pas, pour qu'on ne déménage pas, parce que tout n'est pas brûlé, d'autres parts ont brûlé et d'autres côtés restent. Nous leur demandons de soulever pour nous. Pour qu'on reste, on ouvre ce qui n'est pas gâté, on va commencer à travailler. Et puis d'autres, ils vont arranger pour que les femmes aussi viennent être avec nous ici, pour qu'on débrouille, on se débrouille.
Le président de l'Assemblée consulaire régionale du centre dit tenir compte des suggestions.
Ensemble avec la commission chargée des affaires courantes, nous allons rencontrer les gouverneurs, le ministre en charge du commerce et la chambre de commerce et voir dans quelle mesure trouver une issue de sortie afin que le marché ne soit pas fermé comme le grand marché de Rouroukou qui avait fermé sur une longue période.
Le 30 janvier dernier, au lendemain de celui de Sankariaré, un autre incendie a été signalé au grand marché de Ouagadougou dans un bâtiment R+2 abritant une école et bien d'autres commerces. La tournée s'est effectuée également dans ces lieux où le même message de soutien est passé. Dorénavant, les commerçants appellent à un changement de mentalité. Il s'agit de dénoncer tout cas de marchandises suspects pouvant nuire leur domaine. Aucune perte en vie humaine n'est déclarée pour l'heure dans ces deux cas cités.
Omega Sport.
L'actualité sportive de ce mardi est présentée par Bernabé Cabré qui commence par le championnat de D2.
Bonjour et bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité sportive. On débute par le championnat de deuxième division qui était à sa 13e journée ce week-end. COSAF a battu le Canon du Sud 2-0. Sefeb a disposé des Léopards de Saint-Camy sur ce même score de 2-0. L'AS Kuritenga et l'AS Temabokin ont fait match nul 0-0. L'USO s'est imposé 1-0 face à l'AZO. Le Sporting de Koubri a défait l'Étoile africaine de Zinyaré 2-1. 2-1 également pour Faso Athletic Club face au Santos FC. Au classement de ce groupe A, COSAF leader compte 8 points d'avance sur Sefeb. Au bas du tableau, 10e le Canon du Sud avec 13 points, l'Étoile africaine de Zinyaré est 11e avec 9 points moins 8 et l'USO 12e compte 9 points moins 10. On rappelle que dans ce groupe, seul le dernier sera relégué en 3e division. Dans le groupe B, le Sporting des Cascades a été accroché 0-0 par la GEB. Le JCB a battu l'Equico FC 1-0. L'USI s'impose 2-0 face à Bobo Sport. 2-1 pour le BPS devant la S Maya. La S Eco a été battu 1-0 par l'USCO de Banfora. Et 1-0 pour l'Olympique Système de Dédougou devant Ifama Turku. Leader de la poule, le Sporting des Cascades compte 2 points d'avance sur Bobo Sport et 5 sur le BPS qui est 3e. La S Eco est 10e avec 14 points, Ifama Turku 11e, 13 points et l'Olympique Système de Dédougou 12e compte 10 unités. Vainqueur du premier championnat d'Afrique des Nations de son histoire samedi en Algérie, l'équipe du Sénégal est arrivée dimanche à Dakar à bord d'un vol spécial. Les vainqueurs du CHAN ont ensuite pris la direction du palais présidentiel où ils ont eu l'honneur d'être reçus par le président Macky Sall. Pour récompenser les champions, le président sénégalais a annoncé que chacun d'eux va recevoir une prime de 10 millions de francs CFA et un terrain d'une surface de 500 mètres carrés dans la capitale sénégalaise. Coupe du monde des clubs à présent, c'est aujourd'hui que se dispute la première demi-finale. Le Al Hilal d'Arabie Saoudite sera opposé au Brésilien de Flamengo ce soir à partir de 20h. Demain à la même heure, le Al Ahly d'Égypte jouera contre le Real de Madrid. Les Madrilènes devront composer avec de nombreux absents comme Karim Benzema, le gardien Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Eden Hazard ou encore Lucas Vazquez. En Angleterre, Manchester City se retrouve au cœur d'une énorme polémique. Dans un communiqué officiel publié hier lundi, la Premier League a accusé City de très nombreuses violations présumées des règles financières depuis la saison 2009-2010. Avec plus de 100 accusations au terme d'une enquête de 4 ans, les Citizens vont désormais passer devant une commission indépendante avec le risque de perdre des points au classement ou même de subir une exclusion du championnat. Dans les infractions, on dénombre par exemple des déclarations inexactes à propos des revenus du club et de la rémunération des joueurs et du staff. Mais face à ces accusations, City a décidé de sortir un communiqué dans lequel il dit être surpris par la publication de ces violations présumées et dit attendre avec impatience que cette affaire soit réglée une fois pour toutes. Pierre-Emerick Aubameyang pourrait faire ses valises et quitter Chelsea dans les prochains jours. Le Gabonais n'a pas été inclus dans la liste pour la Ligue des Champions. Il ne fait donc clairement plus partie des plans du coach Graham Potter. Deux options s'offrent au Gabonais, la Turquie ou la Major League Soccer aux États-Unis. En Turquie, Fenerbahçe et Galatasaray se sont positionnés, mais Pierre-Emerick Aubameyang dit ne pas être intéressé. Du côté des États-Unis, Los Angeles FC, l'ancien club de David Beckham et de Gareth Bale, est en pole position. Des premiers contacts auraient été établis et Pierre-Emerick Aubameyang serait intéressé.
La revue de presse. La polémique autour de la réinhumation des restes de Thomas Sankara et de ses compagnons est diversement abordée par les confrères dans les parutions du jour, de même que la sécurisation des infrastructures, sans oublier l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo. La revue de presse est signée Asma Odaou.
Comme si on ne voulait pas que Thomas Sankara repose en paix, titre l'Express du Faso dans sa parution du jour. Pour lui, cette énième polémique sur le dossier Thomas Sankara de façon générale vient une fois de plus donner l'impression que les acteurs de cet emblématique dossier ne semblent pas disposés à permettre au président Thomas Sankara de se reposer tranquillement. À qui profitent donc toutes ces polémiques et tout ce bruit qu'on entretient autour de l'assassinat de Thomas Sankara ? Si le corps de Thomas Sankara appartient à sa famille, il n'en demeure pas moins qu'étant militaire, l'armée a ses règles en la matière. De ce pas, l'observateur parlera dit qu'il a toujours émis des réserves sur le choix éventuel du Conseil de l'Entente pour abriter un monument commémoratif à cet effet. Et pour cause, primo, jusqu'à preuve de contraire, officiellement, ce lieu n'est pas la propriété de l'État burkinabé, mais celle de toute l'organisation communautaire fondée en 1959. À ce titre, il est considéré comme une enclave diplomatique. Secondo, au regard des assassinats, des tortures et autres atrocités qui ont eu lieu, le Conseil de l'Entente, transformé en QG du CNR, est devenu une véritable scène de crime et un symbole de la violence politique. Tout autre chose, la sécurité, qui intéresse le confrère Le Quotidien, notamment la sécurisation des infrastructures socio-économiques, selon lui, l'autre pan de la lutte contre le terrorisme au Burkina, faisant savoir que ces derniers temps, les terroristes, acculés dans leur dernier retranchement, s'attaquent à tout dans l'objectif non seulement de créer la psychose, mais aussi de faire mal. Raison bien suffisante pour tout mettre en œuvre pour que la sécurité des infrastructures soit aussi une priorité, convient-il. Hors de chez nous, l'assassinat du journaliste Martinez Zogo au Cameroun retient aussi l'attention des confrères. Est-ce un crime d'État ? S'interroge Sidoya qui note que sa voix s'est éteinte à jamais dans l'abîme des fossoyeurs de la République. Si les aveux du directeur adjoint des renseignements camerounais sont vrais, il ne serait pas osé de dire que l'assassinat de Martinez Zogo révèle du crime d'État. Pour le pays, les lignes bougent et c'est salutaire. Et l'observateur de rapporter la triple arrestation matinale, selon lui, c'est vraiment ce qu'on appelle être cueilli au saut du lit. Le doyen de Quotidien souligne un drame qui rappelle au Burkinabé l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, un dossier qui piétine 25 ans après, donc il félicite la célérité dans le traitement de l'affaire Zogo, même si les personnes arrêtées restent jusque-là de présumés coupables. Aujourd'hui, au Faso, lui, il cite le tout-puissant Belinga qui tombe comme une mangue blette. À qui le tour ? Se questionne-t-il, mentionnant que Reporters sans frontières a sans doute en partie raison en alertant il y a 72 heures dans un pavé réquisitoire que parmi ceux qui ont tué le patron de Amplitude FM Martinez Zogo figure le tout-puissant homme d'affaires Jean-Pierre Amongo Belinga qui aurait été le commanditaire du rapt, de la torture et de l'assassinat du journaliste qui s'en prenait à lui en dénonçant ses combines malhonnêtes dans le fisc, les finances pour fructifier ses business.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Le décombre macabre se poursuit en Turquie après le violent séisme de magnitude 7.8 qui a frappé tôt ce lundi matin le sud du pays. Comment se porte l'ensemble de la communauté burkinabé, forte d'environ 600 personnes, les consignes de sécurité, leur état d'esprit? Nous nous entretenons aujourd'hui avec Mamoudou Zonan, doctorant en biotechnologie appliquée à l'Université d'Antalya et membre de l'Association des élèves et étudiants burkinabés en Turquie. Il répond aux questions d'Astrid Nikiema.
Monsieur Zonan, bonjour.
Bonjour.
La Turquie s'est réveillée hier matin avec un violent séisme de magnitude 7,8, occasionnant de nombreux morts. Que pouvez-vous nous dire sur ce drame?
Nous nous sommes réveillés avec un drame ici en Turquie, et spécialement dans le sud du pays, qui a touché à peu près 10 villes. Et ça a même touché aussi la Syrie et d'autres pays et voisins de la Turquie. Et il faut noter que, comme je l'ai dit, il y a eu deux séismes dans la même journée. Le premier séisme s'est passé vers 4h30 avec une magnitude de 7,6. Et le deuxième séisme s'est passé dans la même journée vers 13h30 et heure d'Istanbul. Et ça également, ça a été vraiment très grand, de magnitude 7,8. Et en termes de vies humaines, effectivement, ça fait beaucoup de dégâts. Et selon le Centre de gestion des catastrophes et d'urgence, nous comptons actuellement 1498 morts.
Quelles sont les villes qui ont été les plus touchées?
Il y a eu 10 villes qui ont été touchées par ce drame, bien sûr en termes de pertes en vies humaines et matérielles. Puisqu'il y a eu d'autres villes aussi qui ont senti ça, mais il n'y a pas eu d'écoulement des bâtiments et autres. Mais dans les 10 villes, il y a en tout cas eu des écoulements, des pertes en vies humaines et surtout matérielles. Parmi ces 10 villes, il y a deux villes qui ont été les plus touchées, qui est Karman Manash et Gaziantep. Et Karman Maraş, il faut dire que c'est le centre même de ce séisme où il y a eu beaucoup de dégâts en vies humaines et matérielles également.
Et comment se porte la communauté burkinabé dans son ensemble? Y a-t-il des victimes parmi nos compatriotes?
Et il faut noter que l'AIBT est beaucoup organisée, puisque nous avons des représentants des villes dans presque toutes les villes de la Turquie où se trouvent en tout cas les étudiants burkinabés. Et ces représentants des villes nous ont en tout cas rassuré que les compatriotes se trouvent dans cette localité, nos élèves et nos étudiants, et se portent très bien, se portent en bonne santé. Jusque là, en tout cas, nous remercions Dieu, nous pouvons dire que toute la communauté se porte très bien. Oui, effectivement, la communauté burkinabé n'est pas composée seulement d'étudiants ici en Turquie, mais il y a aussi les autres membres de la communauté composés de commerçants et autres. Mais la plupart de ces gens sont concentrés à Istanbul, une ville qui n'a pas été touchée par ce drame. Et également, il y a l'association des Burkinabés vivant en Turquie. Nous sommes en tout cas regroupés dans un groupe de la diaspora qui contient tous les étudiants et tous les autres membres de la diaspora ici en Turquie. Et en tout cas, selon les informations que nous avons jusque-là, et aucun membre de la diaspora burkinabé ici en Turquie n'a été touché par ce drame pour le moment. Et on espère qu'il n'y en aura pas.
Quelle est la situation actuellement là-bas?
Oui, madame, nous pouvons dire qu'ici en Turquie, ce lundi soir, c'est en tout cas la psychose générale ici en Turquie, surtout dans la zone où il y a eu en tout cas ce drame. C'est une zone où il neige beaucoup. Et donc vous imaginez bien avec encore ce drame-là, ajouté encore à la fraîcheur, les gens qui sont dehors. C'est la raison pour laquelle actuellement les écoles sont fermées, parce que selon les informations données par le ministère des enseignements secondaires, jusqu'au 13 février, en tout cas les écoles sont fermées. Et également le ministère des enseignements supérieurs a fait sortir également une note pour dire que les universités qui se trouvent dans ces villes-là sont pour le moment fermées. Oui, en dehors de ça aussi, il y a des opérations de sauvetage qui continuent toujours, des gens qui quittent dans des villes environnantes et dans plusieurs d'autres villes qui partent. Tout le monde se converge vers cette zone-là où il y a eu le séisme. Et il y a également dans tout le pays des campagnes d'assistance sur le plan financier, sur le plan matériel. Les fondations et les associations, tout le monde est vraiment mobilisé pour pouvoir venir à bout de ce drame-là.
Et quel est le mot d'ordre général?
Pour le moment, le mot d'ordre est général. Un mot d'ordre qui a été donné par les autorités et aussi le centre de gestion des catastrophes et des urgences qui a donné des consignes pour éviter les dégâts, puisque toute la journée ici, il y a eu des tremblements de terre. Comme dans les heures qui suivent, il peut y avoir encore d'autres tremblements de terre. Et les gens sont priés de rester en dehors des appartements. Il y a aussi beaucoup d'ONG et des fondations et des associations qui, en tout cas, se déplacent dans la zone pour pouvoir assister les familles sans vraiment distinction.
Est-ce que vous avez reçu des consignes de l'ambassade ou bien des autorités burkinabées?
Ici, l'ambassade se préoccupe beaucoup de la diaspora burkinabé ici en Turquie. Même si il n'y a pas eu de note écrite, l'ambassade a effectivement appelé le président pour s'enquérir des nouvelles de la communauté de façon générale. Et j'espère que s'il y a un mot d'ordre venant de l'ambassade, nous allons en tout cas l'avoir à travers le canal des délégués CSBE. Mais pour le moment, à ma connaissance, nous n'avons pas encore vu un mot d'ordre. Comme je l'ai dit, il y a un mot d'ordre général qui a été donné. Tout le monde observe ces mêmes mots d'ordre.
Merci, Monsieur Zona.
Merci.
C'était notre invité Mamoudou Zonan, doctorant en biotechnologie appliquée à l'université d'Antalya en Turquie. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la réalisation Adama Konaté, à la retransmission Facebook Yaya Dumandé. Bon après-midi à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.